Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous ». Et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus s'est répandue dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole du Seigneur. Avec les événements que je viens de vivre, je trouve interpellant ce que la liturgie de la parole nous propose aujourd'hui. Je commence avec la première lecture tirée de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes arrivés à la section où Paul nous parle du corps humain, qu'il compare à l'Église. Alors, le corps humain que nous avons a plusieurs membres, comme nous le savons. Chaque membre a sa spécificité. Chaque membre est indispensable pour l'unité de notre corps. Et pourtant, tout le corps n'est pas un membre. Un corps a plusieurs membres, dit Paul. Et les membres du corps font que le corps exprime son unité. Maintenant, quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand tu t'es fait mal au petit doigt, eh bien c'est tout le corps qui souffre. Tu as besoin de guérir le petit doigt et c'est tout le corps qui va guérir. J'ai compris davantage cette parole avec le deuil que nous venons d'avoir dans la famille, avec tous les soutiens que j'ai reçus de vous autres, avec les soutiens que j'ai reçus d'autres personnes de Calgary, montre comment dans une communauté chrétienne, alors que nous sommes plusieurs membres, quand un membre est touché, eh bien, tous les membres sentent le cœur brisé. Tout le monde voudrait faire quelque chose pour aider la personne, le membre qui a été affecté. Il me semble que c'est cela la vocation chrétienne, la vocation du baptisé, la vocation des églises. Mais quand on va encore plus loin, chaque église locale est un corps, mais en même temps un membre de l'église universelle. Et chaque église locale a sa couleur, a sa manière d'être, a ses talents, a ses forces. L'église d'Ottawa n'est pas celle de Montréal. L'église d'Ottawa est différente de l'église de Montréal, et pourtant c'est la même église. La couleur de l'église d'Ottawa n'est pas la même couleur que l'église de Montréal. Et pourtant, c'est la même église. Il y a la diversité dans l'église. Alors, cette diversité que nous avons, ce n'est pas pour la division, ce n'est pas pour la séparation, mais c'est une diversité qui nourrit l'unité. On est divers, différents, on fait des choses de différentes manières en vue d'exprimer cette unité qui est le nôtre. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres qui sont diverses et qui ont des vocations différentes. Alors c'est cela en fait que Paul voudrait exprimer. Il y a la diversité, mais cette diversité qui doit se vivre, qui doit s'exprimer dans l'unité. Regardez, l'évangile parle de la résurrection du jeune homme de Naïm. Le Seigneur se présente comme le maître de la vie, celui qui donne la vie. Alors c'est un cortège qui sort de la ville et Jésus se rend compte en fait que c'est T'as un fils unique qui vient d'être arraché à sa mère qui était déjà veuve. Vous savez qu'à l'époque, être veuve, c'était vraiment être parmi ceux qui vivaient une pauvreté radicale. Parce que la veuve, la femme à cette époque-là, dépendait beaucoup de l'homme. La richesse de la femme, c'était la richesse de l'homme. Quand la femme n'était pas rattachée à l'homme, quand elle n'était pas mariée, bien elle vivait dans la pauvreté la plus stricte. Alors cette veuve-là, en perdant son fils qui était un garçon, eh bien, elle commençait une vie difficile parce qu'elle venait de perdre la plus grande richesse de sa vie. Alors elle allait vivre dans la solitude. Alors le Seigneur Jésus, connaissant tout cela, vient au secours de cette personne dans sa compassion. Il vient redonner vie à cet enfant-là en vue de réhabiliter la veuve, en vue de donner espoir à la veuve, espoir et espérance dans sa vie. Voilà, quand le Seigneur vient ressusciter les morts, c'est non seulement pour la personne qu'on ressuscite, mais c'est aussi pour nourrir les personnes qui restent rattachées aux morts. Il me semble que le Seigneur, comme célébrons des funérailles, comme je viens de le faire pour mon frère, il me semble que le Seigneur, dans notre foi, peut-être que nous croyons, il appelle les morts, c'est vrai. Mais non seulement il s'occupe des morts, mais il s'occupe aussi des personnes qui viennent assister aux funérailles, surtout les membres de la famille. Il vient nourrir, il vient soutenir avec sa force, avec son amour, il vient soutenir même les personnes qui sont autour. C'est comme ça qu'il a fait avec le jeune homme de Naïm. Il le ressuscite en vue de sa mère, en vue des personnes qui l'entouraient. Dans la célébration d'aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur, nous qui sommes les membres d'une même église, l'église de Saint-Gabriel notamment, et nous allons demander que le Seigneur vienne nous nourrir davantage, qu'il donne à chacun, chacune de nous, de jouer vraiment son rôle avec ses talents, avec ses forces, avec sa couleur dans la communauté, tout en gardant l'unité qui est signe de la présence de Dieu. Et qu'en gardant cette unité, que nous nous rappelions que vraiment, la vie que nous recevons est celle de Dieu. Cette vie que nous avons reçue de Dieu et que nous continuons à recevoir aujourd'hui par l'Eucharistie, ce n'est pas une vie qui s'arrête ici, c'est une vie qui va au-delà de la tombe. Amen.